les investisseurs avec Sarah Zuckerman et Martin Guy Bernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 26 mars 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, depuis la dernière semaine, comment ça se passe?
On est zen, ça va beaucoup mieux. Les marchés ont repris quand même du poil de la bête là, dans les dernières séances depuis la semaine passée. De sorte que le marché canadien est en hausse de 2,5% cette semaine. Ça ramène la baisse du mois de mars à seulement 0,2%, là, donc essentiellement flat. Année à jour, le marché canadien est en hausse de 2,5%. Du côté américain, une hausse de 2,9 pour la semaine sur le S&P 500. On demeure en baisse d'environ 3% pour le mois en cours et 1,8 pour l'année. Et le Nasdaq, un rebond de 4,4%, donc un très fort rebond en une semaine. On demeure quand même en baisse de 3% pour le mois et 5,4% de baisse pour l'année en cours. Dollar canadien, ben on sait que la semaine prochaine, en principe, là, le 2 avril, possiblement qu'il y aura encore des tarifs. On est toujours dans l'épisode des tarifs. Le marché semble un peu plus complaisant face à ça. On en a moins entendu parler dans les derniers jours. Le dollar canadien remonte à 70,2. Les taux d'intérêt, légère hausse au Canada, 3,08 sur les 10 ans versus 3,02 la semaine passée, donc pas très élevé. Même chose du côté américain, là, on est passé de 4,28 à 4,31. Plusieurs titres, je regardais un peu, là, t'sais, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, année à jour. Ben, qu'est-ce qui va moins bien? Là, alimentation couche-tard en baisse de 11%. La Banque Royale, qui avait été la meilleure banque ou une des très bonnes banques là, dans les derniers 2-3 ans, est en baisse de 4% année à jour. Par contre, la Banque TD, qui inquiétait beaucoup de monde à l'automne, elle est en hausse de 13% année à jour. Power Corporation en hausse de 12% année à jour. Microsoft, moins 6%. Nvidia, moins 30%. Tesla, moins 30%. Donc, c'est quand même des baisses assez prononcées. Mastercard, plus 4. Donc, tu sais, c'est vraiment, on appelle ça un marché de stock picker, là, de sélectionneur de titres. Je pense qu'on arrive dans une époque où les fonds indiciels ont très, très bien fait dans les dernières années. Peut-être qu'avec l'incertitude, puis avec toute l'histoire des tarifs, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Puis je pense qu'un gestionnaire actif qui sélectionne des entreprises, puis pas d'autres, ben ça va peut-être tirer son épingle du jeu. Fait que je trouvais intéressant là, de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Puis souvent, les titres, les bonnes entreprises qui ont moins bien fait dans les derniers mois deviennent les meilleures entreprises dans la période suivante. C'est pas rare là, qu'on voit ça. Fait que faut demeurer patient quand ça brasse un peu.
Et il faut aussi être bien diversifié, comme on le dit à tous les semaines.
Exact.
Donc, merci beaucoup, Martin. On sait qu'il faut épargner en vue de la retraite. On sait qu'il faut cotiser à nos REER, à notre CELI, pour payer moins d'impôts, se bâtir un fonds d'urgence, c'est bon aussi, et rembourser ses dettes. Cependant, l'assurance est aussi une composante importante de la planification successorale et peut-être un outil pour la planification de retraite.
Ouais.
Donc aujourd'hui, nous avons invité notre collègue Sonia Jolette, conseillère en sécurité financière pour le cabinet de services financiers de Valeurs Mobilières Desjardins, pour nous parler d'assurance. Bonjour Sonia et merci d'avoir accepté encore notre invitation.
Bonjour à vous deux, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation.
donc c'est ta deuxième fois avec nous sur le balado. Puis, on sait qu'il y a des bonnes raisons, il y a plusieurs bonnes raisons de prendre de l'assurance vie. Souvent, les gens pensent vraiment uniquement à l'aspect protection, mais une assurance vie peut servir d'épargne retraite, n'est-ce pas?
Oui, en effet, une assurance vie permanente peut accumuler ce qu'on appelle une valeur de rachat. Donc, à la base, on a une protection d'assurance avec un coût, mais c'est aussi possible de faire des dépôts supplémentaires à notre contrat d'assurance-vie. L'épargne qui s'accumule avec ces dépôts-là, qui sont investis, et tous les revenus que ça génère, s'accumulent à l'abri de l'impôt à l'intérieur du contrat d'assurance-vie. Bien sûr, il y a un montant maximum qui peut être déposé au contrat d'assurance à chaque année afin de respecter les règles fiscales d'exonération, comme pour un REER ou un CELI. Mm-hmm. C'est la même chose. On a un maximum. Donc, ça permet d'accumuler des sommes qu'on va pouvoir utiliser plus tard pour la retraite et qui s'accumulent à l'abri de l'impôt. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un véhicule qui est fiscalement avantageux aussi pour la retraite.
Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement au décaissement?
Bon, c'est une très bonne question. Disons qu'on a investi pendant plusieurs années. Donc, ça prend quelques années avant d'accumuler une bonne valeur de rachat ou une bonne épargne au contrat. Il y a une première façon qui est directement d'aller faire des retraites dans son contrat d'assurance. Si on va faire des retraites directement, bien là, ça se peut qu'on ait un impôt ou une facture fiscale sur les revenus qu'on va devoir payer à chaque retrait ou à un moment donné dans nos retraites. Une deuxième façon avec laquelle, qui est un peu une stratégie là, de mise en garantie, c'est qu'on prend notre contrat, on va voir une institution financière, on procède à la mise en garantie de notre contrat d'assurance et l'institution financière va établir une marge de crédit, va prendre notre contrat d'assurance, mais il va dire, selon la valeur de rachat qu'on a accumulée, voici le montant de la marge de crédit que je peux vous accorder. Alors, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque année, sur une période déterminée ou non, c'est sur 5 ans ou sur 10 ans ou à vie, peut aller faire des prêts. Donc, va chercher de l'argent sur sa marge de crédit. On s'entend qu'un prêt est non imposable, donc peut profiter de cet argent-là. On n'a jamais à rembourser ni le capital ni les intérêts. Et au décès, bien sûr, l'institution financière, elle a pris le contrat d'assurance vie en garantie, va pouvoir rembourser le solde de la marge de crédit et verser la balance, dans le fond, s'il en reste, habituellement il en reste toujours, au bénéficiaire ou à la succession de la personne. Ce qui fait que c'est possible de profiter de son vivant, des sommes ou de l'équité qu'on a accumulée dans un contrat d'assurance, mais de son vivant et de venir bonifier de façon fiscalement avantageuse sa retraite.
Moi, je t'entends, Sonia, là, puis je peux pas m'empêcher de penser à la publicité des hypothèques inversées avec Kurt Browning. C'est un peu l'équivalent des gens âgés qui ont une maison payée, veulent demeurer dans la maison, puis ben ils ont plus d'argent, mais ils vont mettre la garantie, la maison en garantie. Donc, c'est une hypothèque inversée, mais au lieu d'être sur une maison, c'est sur un contrat d'assurance vie.
Absolument. Il faut simplement, tu sais, comprendre qu'un contrat d'assurance vie, c'est un actif. C'est un actif avec une valeur. Là, c'est sûr qu'on parle de contrat d'assurance vie permanente avec des valeurs de rachat, mais ça représente un actif. Alors, l'institution financière, elle, elle prend aucun risque parce qu'elle sait qu'il va y avoir un montant qui va être versé au décès qui est toujours supérieur. C'est comme si on avait une équité, justement, sur un immeuble pour lequel on va aller chercher cette équité-là, on va faire un prêt de notre vivant. C'est exactement la même chose.
Oui. Puis, à qui ça s'adresse? Et quand est-ce qu'on fait ça? Puis, c'est qui a un bon profil pour faire ça, ce genre de placement-là, entre guillemets, là?
Oui, très bonne question. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est que il faut utiliser des sommes non enregistrées, premièrement, pour investir dans un contrat d'assurance-vie. On va toujours conseiller de maximiser ses REER, régime d'épargne-retraite en premier, de maximiser son FELI. Et là, l'assurance-vie devient un troisième véhicule financier pour les excédents de liquidité non enregistrés qu'on pourrait avoir. Alors là, bien, c'est sûr parce que le REER va nous donner, bien sûr, un avantage fiscal directement sur le revenu. Le CELI, pourquoi? Parce que le CELI est très flexible. On peut aller investir de l'argent, en retirer. Tandis que l'assurance, bien, c'est sûr que les premières années, je vous dirais les 5 premières années, il y a peu ou pas de valeur de rachat qui s'accumule. Donc, il faut attendre à la 10e, 15e, 20e année pour laisser ce que j'appelle travailler en contrat d'assurance-vie permanente pour que la valeur de rachat augmente exponentiellement avec les années. Donc, quand tu me disais « c'est bon pour qui? » C'est quelqu'un qui a maximisé les autres véhicules d'investissement fiscalement avantageux et qui a quand même quelques années devant lui ou elle avant le moment de la retraite. Donc, j'ai besoin d'au moins 12-15 années avant la retraite pour mettre ça en place, pour dire si ça vaut vraiment la peine.
Puis, est-ce qu'on peut utiliser l'assurance pour payer la facture fiscale au décès? On sait qu'on fait des illustrations de retraite, des plans successoraux pour nos clients. Puis, on dit, OK, bien, t'as des REER, t'as des CELI, t'as une maison, un chalet, un bloc appartement. T'as 2, 3, 4, 500 000 d'impôts à payer. Il y a deux certitudes dans la vie, la mort et les impôts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Sonia?
Ça peut être aussi une autre stratégie intéressante de prévenir en investissant dans une assurance vie parce que le montant d'assurance, on peut un nommer des bénéficiaires. Donc, en nommant des bénéficiaires qui sont des individus, les sommes au décès sont versées directement aux bénéficiaires qui sont nommés dans le contrat d'assurance et ne passent pas par le règlement de la succession. Ça permet d'avoir accès à des liquidités non imposables et rapidement. Parce qu'un contrat d'assurance ne va pas attendre que, justement, la fin de la liquidation ou de la succession soit réglée totalement. Les gens vont pouvoir avoir accès directement et rapidement à ces sommes-là, non imposables. Donc, on peut régler des factures comme une facture d'impôt, justement. Et aussi, l'autre chose, bien, ce que ça permet de faire, c'est de prévoir un petit peu et faciliter la vie à nos héritiers, nos enfants, notre succession, pour pouvoir régler là, ces petites factures-là.
Bien, puis je peux parler d'expérience toute récente. Quand ma mère, elle est décédée au mois d'octobre, elle avait une assurance et mon père avait besoin d'argent assez rapidement parce qu'il devait rentrer en RPA puis il avait besoin de soins. Et on était très heureux d'avoir cette assurance-là. Donc, je ne sais pas à quel point ma mère, elle y a réfléchi pendant qu'elle le payait, mais nous, comme liquidateurs testamentaires, on était vraiment contents d'avoir cet argent-là.
Il y a l'aspect facilité aussi, oui. Faciliter le règlement de la succession. Oui, exactement.
Puis, c'est quoi l'âge cible? T'sais, ça fonctionne-tu? On a plein de clients là, qui ont 65, 70, 72. Sont-tu trop vieux? Ça fonctionne-tu encore? Comment ça marche?
Chaque dossier est différent. C'est sûr qu'il y a plusieurs aspects là, pour établir une assurance-vie, mais quelqu'un qui est normalement en bonne santé assurable, parce que la tarification d'une assurance, c'est de se dire l'assureur, je mets ça très simplement, j'ai une assurance de 100 000 $ et j'ai 70 ans. Si la tarification va établir mon espérance de vie à 85 ans, ou à, maintenant les femmes ont vu jusqu'à 87, 88 ans, là, mais facilement, mais disons que j'ai 85 ans, donc l'assureur a 15 ans, pour ramasser 100 000 $ parce qu'il sait très bien que lui, vers l'âge de 15 ans, il va devoir verser. Donc, il va établir un coût d'assurance par rapport à l'espérance de vie qui est établie. L'espérance de vie est établie avec l'assurabilité de la personne, donc la santé. Donc, si une personne est normalement en santé, on ne dit pas d'avoir une santé parfaite, mais qu'il y a une espérance de vie suffisamment longue pour que l'assureur puisse établir le contrat, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge maximum. Des personnes de 70, 75 ans, facilement, on peut mettre en place des protections d'assurance-vie qui vont faire du sens et qui vont donner un rendement en bout de ligne, tu sais, qui est appréciable. Parce qu'on sait combien on va payer pour l'assurance, on sait combien de temps on va payer, à peu près. Donc, ce n'est pas défini, on s'entend, on ne connaît pas le jour, mais on a une bonne idée et ça nous donne un rendement. Donc, on sait combien je dépose, on sait combien je vais recevoir. Donc, je fais comme un placement à terme. Tu sais? Donc, je peux y attitrer, je peux déterminer un rendement. Puis, bien sûr, c'est un rendement non imposable. Tant que mes rendements tournent autour du 3, 4, 5 % net non imposable, je trouve que c'est un bon placement. Donc, c'est de faire des exercices avec les clients, procéder avec des illustrations, des projections, puis être sûr qu'on arrive avec, tu sais, même si la personne vit jusqu'à 100 ans, qu'il y a un bon taux de rendement là, qu'on peut aller chercher. Puis si ça fait du sens, oui, c'est une bonne affaire. Si ça ne fait pas de sens, on tourne la page, on regarde d'autres options.
Puis je pense que tu m'avais expliqué aussi le concept quand on est un couple, puis on s'assure au dernier décès. On est un couple de deux personnes de 70 ans. On n'a pas 70 ans au point de vue de l'assurance. Hein? Parle-moi de ça un peu. Là. C'était un peu
Les statistiques nous disent que quand les personnes sont en couple, ils vont vivre plus longtemps. Donc
ça, c'est bon pour nous.
Donc, les actuaires vont déterminer une espérance de vie qui est plus âgée, souvent de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, quand j'ai un couple de 70 ans, madame a 70 ans, monsieur a 70 ans, l'âge commun pour une assurance qui serait payable au dernier décès. Donc, on fait une assurance qui est conjointe sur les deux têtes qui va être payée simplement au dernier décès. mais souvent, la facture fiscale, elle vient au dernier décès.
Ouais.
Donc, c'est vraiment fait pour payer les factures fiscales qui viennent au dernier décès. Et là, je me retrouve avec un âge commun, 6, 7, 8 ans. Fait au lieu d'avoir 70, j'en ai âge commun selon l'assureur, et plutôt alentour de 63 ans, 64 ans. Alors là, oui, je vais chercher un avantage encore de ce côté-là.
Fait que c'est au lieu de faire du Botox, on peut juste s'assurer à deux, puis on rajeunit de 7-8 ans, c'est parfait. Ça.
Bien dit, Martin, bien dit. Bien, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Sonia, et merci, oui. Martin. Pour nos clients, nous référons nos clients à Sonia, c'est notre partenaire, et vous avez vu aujourd'hui, elle explique très, très bien, c'est très clair. Donc, faites-nous signe vraiment, elle fait partie de notre équipe, on aime dire, donc faites-nous signe si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.